j'étais très méfiant, enfin je sais pas ce que vous pensez de Jean Charron, je l'avais lu et vraiment j'étais pas convaincu du tout de sa démonstration.
Oui, moi je le connais, je sais pas, il est très attaqué, je voudrais moi pouvoir vérifier ses calculs, alors je ne suis pas capable. J'ai perdu le contact avec les notes, je ne me suis pas recyclé, j'ai voulu au début des années 50 me recycler. Alors j'ai renoncé, parce que là, ça, à mon âge, je ne pouvais plus déjà. Vous savez, peut-être qu'il faut avoir votre âge au plus tard, n'est-ce pas, 30 ans, 35 ans maximum, pour vraiment se recycler. En condition, moi, j'avais une formation de polytechnicien, n'est-ce pas, mais en l'enseignement, je suis sorti de l'X en 29, vous vous rendez compte, il y a plus d'un demi-siècle. Et l'enseignement a tellement varié, la théorie des ensembles, tout le reste. Alors j'ai essayé, honnêtement, au début des années 50, je travaillais à la bibliothèque de l'Université de Genève à l'époque, pour me documenter sur la cosmologie. Et j'ai voulu prendre les cours de l'X, les nouveaux cours. J'ai tenu 8 jours, pas plus. Il fallait faire ça 15 heures par jour. J'ai pris le cours de Laurent Schwartz, d'analyse. J'ai pas pu. C'était polycopié, déjà, c'était pas dans le commerce. Je ne sais pas quelle est les feuilles de cours, mais non, j'ai pas arrivé. Alors comme lui, Charron, ses théories, là, chaque fois qu'il fait un bouquin, il en fait deux. Hein. Vous savez, il fait un bouquin de vulgarisation, un bouquin scientifique. Un bouquin de vulgarisation, ça c'est banal selon moi, n'est-ce pas, l'intelligence désirante. Oui, mais
c'est ça qui m'a beaucoup...
Oui,
j'ai pas du tout été convaincu par la démonstration.
Il n'y a pas ce sens-là, dans la gnoséon, c'est pas ça, n'est-ce pas. Et puis il y a ces bouquins sur les mathématiques, la relativité complexe. Ils sont des calculs alors, n'est-ce pas, des équations. Alors là, vous parlez à des matheux, ils vous disent, ah non, c'est pas vrai, il y a des fautes. Et d'autres, ils vous disent, non, il n'y a pas de fautes. Voilà, moi j'en suis là. Alors, les équations de la relativité complexe, où il prétend avoir finalement trouvé le champ unitaire que Einstein cherchait, n'est-ce pas, les équations du champ unitaire. Moi, je sais pas. Là, j'avoue mon incompétence. C'est pour ça qu'il est tenu à l'écart de beaucoup de choses, d'ailleurs, à cause de ça, parce qu'il gêne beaucoup. Et puis, il n'est pas agrégé de physique, on comprend, agrégé de maths. Il est ancien élève de l'école de chimie industrielle de la ville de Paris, il n'a pas les diplômes. C'est comme moi, quand je fais de la philo, je ne suis pas agrégé de philo, immédiatement. Ça, c'est le mandarin en français, vous êtes rejeté. Il faut s'en foutre, mais enfin, c'est quelquefois pénible. Pour la structure absolue, j'ai pu publier la structure absolue parce que j'avais fait des romans, ça n'aurait jamais été publié. Calimard l'a pris parce que j'étais romancier. Alors là, j'avais mon public, alors il s'est dit que bon, plutôt, c'est rentable. Mais vous savez, j'ai de la peine à le faire passer. Hein. J'ai eu des discussions sévères avec les gars de la collection. J'étais des agrégés normaliens, quoi. J'étais pas du clan, je faisais pas partie du groupe. Enfin, pour en revenir à ça, moi je suis devant une énigme. Je ne prétends pas que ce bouquin sur la numérologie, nous avons d'ailleurs, apporte une vérité. En tout cas pas définitive de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs, remarquez, il y a deux restrictions. Hein. Introduction à une théorie. Vous voyez, il y a deux restrictions. Introduction à une. Donc ça laisse la porte ouverte à bien des choses différentes. Mais le code, pour moi, est valable. Voilà. Le code et les modes opératoires, on peut en ajouter d'autres, mais ceux qui sont là sont valables. Il y a trop de coïncidences, c'est pas possible que ça ne colle pas. Il y a trop de coïncidences. Même au sein du verset de la Genèse, du premier verset de la Genèse, mais vous n'imaginez pas le nombre de coïncidences qu'on peut trouver. Des centaines, on peut faire un bouquin de 500 pages sur le premier verset de la Genèse, uniquement avec des équations, ça n'a aucun intérêt, bien sûr, mais uniquement avec des équations. Le mot Bereshit, on peut faire, je ne sais pas, 200 pages sur le Bereshit, avec les hypothèses qu'on peut faire sur le grand bête initial, car il y a un grand bête au début. On peut faire un tas d'hypothèses là-dessus. Alors là, je suis devant ou bien je suis victime d'une illusion énorme, mais tant pis pour moi.
Hein. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a...
Ou bien il y a quelque chose qui sera explicité plus tard, qui fera des petits camps. Je n'en sais rien.
Mais les kabbalistes juifs, je suppose, enfin les...
Non, ça, ils sont imperméables. Ils refusent même d'ouvrir le bouquin. Votre clé n'est pas traditionnelle, ça ne nous intéresse pas. Eux, c'est 1 à 400, n'est-ce pas. 1 à 400 depuis 1000 ans, on fait des calculs depuis avec la clé de 1 à 400, ils n'ont jamais rien donné, sauf des fantaisies. Même les kabbalistes chrétiens, vous savez, les plus éminents, qui sont cités dans tous les livres, Postel, qui est des professeurs surtout en Alsace, ou en la Renaissance, calcul, il n'y a rien du tout en tout ça. Ça ne signifie rien. Non, il faut partir, il faut vraiment partir d'un concept structuraliste. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit à Lévi-Strauss, enfin plus exactement, quand j'ai envoyé la structure absolue à Lévi-Strauss, ce que je cite très souvent dans ce bouquin, ben là, il y a un problème de méthodologie, n'est-ce pas? Moi, je parle d'un invariant universel posé a priori. Enfin, avec beaucoup quand même de faire l'appui, hein. Bon, appliqué à beaucoup de domaines. Il me répond, mais nous, les anthropologues, les universitaires, nous sommes obligés d'être plus prudents. Nous étudions les structures en bas, n'est-ce pas, une par une. Alors, il étudie des couples d'opposition simples, vous comprenez. Alors, il les dénombre, il ne peut pas établir des relations entre elles. Alors, ils font des hypothèses plus ou moins bizarres, métaphysiques, n'est-ce pas, sur le diffusionnisme des structures, vous comprenez. Bon, alors pourquoi telle structure ici se transforme-t-elle en telle structure là? Qui est son inverse, pourquoi la relation père-fils devient-elle oncle-neveu, etc., etc. Et ça reste empirique, ils font des dénombrements de structures, et puis ils font des structures de structures, et puis des structures de structures de structures. Ils bâtissent la maison par en bas. Moi, je dis, il faut la bâtir par en haut. Évidemment, c'est paradoxal. Et eux, ils bâtissent une maison par en bas qui n'a ni porte ni fenêtre, qui n'a pas d'escalier. Voilà.
Est-ce qu'ils arrivent à quelque chose ou est-ce que finalement c'est...
Ben, c'est leur méthode. Ils arrivent à dénombrer des structures et puis maintenant ça passe de mode parce qu'on se rend bien compte que la vie en est absente. Là, ça devient du formalisme. Alors c'est passé de mode maintenant. Maintenant, le structuralisme à la façon universitaire est attaqué comme ne rendant pas compte du vécu. Parce que c'est pas génétique, vous comprenez? Ça reste formel. Ils font des dénombrements, alors c'est assez précieux, c'est des matériaux. C'est comme si, pour bâtir le palais de Versailles, il faut commencer par faire des briques, quoi, c'est tout. Mais ils font des briques, ils ne font pas le palais de Versailles, vous comprenez? Voilà, c'est tout le problème. Faire le palais de Versailles, il faut un plan. Et le plan, il faut qu'il sorte d'une tête d'en haut, pas d'en bas, n'est-ce pas? Bon. Il faut le concevoir. C'est tout le problème. Alors, il m'a dit, nous sommes contraintes, plus prudents. J'accepte fort bien ce point de vue. Mais il faut qu'il y ait une convergence entre les deux. Et vraiment, moi j'accepte la convergence, eux n'acceptent pas. C'est exclusif, n'est-ce pas? Nous sommes conseillés comme des non-scientifiques. Tant pis, que voulez-vous y faire, hein? Il ne peut rien. C'est l'avenir qui tranchera. Il y a deux méthodes, par en haut, par en bas. Moi j'accepte encore une fois les deux. Je considère que ça va à la rencontre l'un de l'autre. Et j'accepte fort bien que les physiciens actuels ignorent la structure absolue et travaillent dans des... comme Bohm, comme Capra, comme tant d'autres, n'est-ce pas? Chacun inventant son petit système de référence, et puis tout ça se réunissant dans des colloques, ça remet beaucoup, colloques de Corbeau, etc. Tout ça était passionnant, très positif, très positif. Ce n'est pas encore unifié, bien entendu, bien entendu. Et l'unification, d'ailleurs, ne se fera jamais complètement, encore une fois, parce que là, c'est un vieux débat philosophique, mais je ne pense pas qu'on puisse le régler autrement que de façon verbale, par des dissertations universitaires sans intérêt. C'est la réduction des propriétés des situations, des propriétés globales aux propriétés locales, aux propriétés de structure, propriétés inhérentes. Donc cette réduction-là, ben, c'est le vieux débat entre Kant et Leibniz. Je ne pense pas qu'il soit résolu. C'est deux attitudes d'esprit. Et pourquoi les rendre exclusives l'une de l'autre? C'est tout le problème. Ce qu'il y a de bien dans la structure absolue, c'est que, étant donné qu'elle est sphérique et qu'elle tourne dans tous les sens, qu'elle est en dehors du temps par conséquent, qu'elle admet toutes les rotations dans tous les sens, il n'y a pas d'avant et d'après, comprenez? Il n'y a pas d'au-delà et d'en-deçà. Alors, tous les problèmes que pose la science universitaire sont souvent des problèmes de succession, de fondement d'origine, à l'origine des temps. Bon, le mot origine est arrayé de mon vocabulaire, c'est évident, il n'y a pas d'origine pour moi. Comme dans Roy, dans
l'histoire. C'est un bouclage finalement, la structure absolue sur la
donnée
finale vers la donnée originelle.
L'univers stationnaire de Roy se fiche pas mal de l'origine, hein. c'est pas son problème. Dire que le signe est antérieur à la signification, par exemple, pour moi c'est une phrase qui n'a pas de sens. En vision naïve, en vision naturelle, oui. C'est vrai, n'est-ce pas? Quand monsieur Mathieu, le peintre Mathieu, fait ses calligrammes, là, ses calligraphes, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, mais le signe est antérieur à la signification. Après, on trouve des significations. Alors, sa grande découverte, le signe est antérieur à la signification. J'ai dit, bon, mais ça, c'est la vision naturelle. Au sens du ciel, c'est la vision naïve ou naturelle. Ce n'est pas la vision transcendantale. La vision transcendantale voit tout en simultanéité. Alors, le problème des rapports du signifié et du signifiant qui alimentent les thèses de nos philosophes depuis 1960, ça, c'est mon déjeuner. Alors voilà, écoutez, vous allez faire une synthèse de tout ça.
Oui, hein? De toute façon, je crois qu'on a beaucoup de matériel.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
je ne connais pas vos noms, je n'aime pas demander vos noms. Vous appelez vous
Rémi Sussan.
Rémi Sussan. Oui.
Philippe Pissier.
Philippe Pissier.
Pissier.
Pissier. Bon, vous m'écrivez
Oui.
Vous m'écrivez. Hein. Non, pas maintenant, vous m'écrivez comment? Ah, vous avez assez, non?
Oh oui, je crois que
je vous souhaite beaucoup de plaisir.